Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et Hélène Bizio et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Juliette Delperroux. La gourmandise de ce matin, c'est l'avant-propos qu'Auguste Strindberg rédige en 1887 pour un récit qui met en scène sa descente aux enfers progressive pour cause de jalousie. Le texte s'appelle « Le plaidoyer d'un fou ». Voici le début. « Ceci est un livre atroce. Je l'admets sans objection, car de l'avoir écrit, j'ai un regret cuisant. Ce qui l'a fait naître, ce livre, la juste nécessité de laver mon cadavre avant qu'il soit enfermé pour jamais dans la bière. » Ambiance. Psychanalyste, écrivain et philologue né en Bulgarie, notre apothicaire de l'âme arrive en France pour faire une thèse sur le nouveau roman qui évoluera en thèse sur la révolution du langage poétique. Elle suit le séminaire de Barthes qui écrira dans un article intitulé « L'étrangère » qu'elle change la place des choses. Puis elle remet en cause le structuralisme pur et dur en concevant la fameuse notion d'intertextualité. Avant de s'encanailler avec le groupe de la revue Telle Quelle et de rédiger son œuvre foisonnante, elle a envisagé des études d'astronomie à Moscou. Notre apothicaire est une affranchie multiple et surprenante. « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces », disait Colette, une citation que notre invitée fait sienne. Elle s'intéresse à tout, écoute, assiste, lit, sonde, transmet. Elle fait croire au possible et nous voit comme des êtres en renaissance permanente. Elle s'est pourtant intéressée de près à la mélancolie, notamment dans son passionnant essai « Soleil noir », mais point de tempérament dépressif chez celle qui considère l'enthousiasme comme une endurance. Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour.
Julia Kristeva, je suis très curieuse de vous poser cette question. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Alors, c'est une présence permanente et en même temps une étrangeté absolue. Je suis une voyageuse, je crois que vivre c'est s'exiler et ça commence par s'exiler de la mélancolie. Il n'y a pas d'autre au-delà pour nous les descendants de la Renaissance et des Lumières qui ont coupé le fil avec la religion, il n'y a pas d'autre au-delà qu'au-delà de la mélancolie. Mais pour cela, il faut la côtoyer, la connaître et pas la dénier. Vous savez, il y a une recherche en psychanalyse, contrairement à ce qu'on dit, et une des premières choses que les psychanalystes freudiens, ou freudiennes plutôt parce qu'il s'agit des femmes en l'occurrence, c'est que nous passons tous par ce qu'ils appellent une position dépressive. Avant de parler, l'enfant devient dépressif. Ce n'est pas le mot, mais il paraît être dépressif parce que il exprime une tristesse. Au lieu d'être enragé, de sucer son pouce et ou son nounou, il se montre désemparé, angoissé par la mimique de son visage, par ses yeux. Pourquoi ? Parce qu'il accepte l'absence, il accepte d'être seul, il trouve le remède, c'est au lieu de dire « heureux », il dit « maman ». Donc le langage est né ainsi. C'est une manière de nager dans l'océan de tristesse.
Le premier objet perdu, c'est la mer, comme on va le voir plus tard.
Tout à fait.
Julia Kristeva, dans vos entretiens autobiographiques « Je me voyage », vous dites que vous n'êtes pas mélancolique. Mais dans une interview où vous parlez de Philippe Solers et de vous, vous dites « Je suis plutôt Jean qui pleure et lui, Jean qui rit ».
Mais Jean qui pleure n'est pas forcément mélancolique. Jean qui pleure reconnaît qu'il y a des douleurs, il reconnaît que la vie est un combat permanent, donc il n'est pas dans un absolu enthousiasme béat, mais Jean qui pleure est un sage. Parce qu'il sait dire les pleurs, leur donner des mots, chercher même par-delà les mots. C'est un artiste, Jean qui pleure.
J'ai l'impression, en lisant vos interviews, Julia Kristeva, que vous ne vous enfermez dans aucune programmation, aucun déterminisme. Parfois, on est coincé à cause de son passé, de ses idées noires, où on se dit « ça va toujours se produire de la même façon ». Vous, à chaque moment, ça recommence. Comme quand on lance une pièce à pile ou face, tout peut arriver.
Écoutez, moi je suis née dans un pays totalitaire et la question de la mélancolie n'était pas au premier plan parce que les gens étaient dans l'endurance, dans le dépassement du mensonge. Donc il s'agissait de se dépasser soi-même et non pas de pleurer sur soi-même. Et la notion de mélancolie, même si le mot existe sans doute dans la langue bulgare, je dis sans doute parce que je la parle de moins en moins, elle s'est imposée cette notion en lisant les auteurs français. Et j'ai tout de suite compris qu'il y a deux manières de vivre la mélancolie. L'une, c'est de jouir avec une espèce de volupté dans la tristesse, dans tous ces états entre l'anxiété et la peur.
La complaisance.
La complaisance, et c'est en partie quelque chose qui se passe dans la foi orthodoxe, par exemple. Mais qui peut être, cette volupté, une manière de résister à l'automatisation des espèces humaines que nous sommes en train de devenir, et notamment, à l'époque, à l'automatisation par la technocratie communiste. Et il y a une autre façon, c'est d'essayer de trouver les langages à cela. Et mon père disait, il faut que mes filles sortent de l'intestin de l'enfer. Le communisme, c'était l'intestin de l'enfer. Je ne sais pas où il avait trouvé ça, il prétendait que c'est dans les évangiles, je n'ai pas trouvé, je pense que ça doit être dans quelque part chez Dante. Toujours est-il qu'en apprenant les langues étrangères, on était déjà dans cette espèce d'exil permanent, de voyage permanent, de changement d'objet. Et c'est une forme de multilinguisme, en fait. La malheureuse et grande Europe à laquelle nous appartenons maintenant n'a pas beaucoup d'excellence, mais là, une qui me tient à cœur, c'est le multilinguisme.
On va justement revenir à la puissance du verbe, à la parole, oui. Julia Kristeva, puisque vous allez convoquer dans quelques instants Alfred Hitchcock, l'expérience psychanalytique évidemment, Ella Fitzgerald, Cécilia Bartoli, Marcel Proust, une horloge astronomique, l'île de Ré et le sombre plaisir d'un cœur mélancolique, juste après un titre inédit d'Alain Bachung sur l'album posthume intitulé En amont, un titre à pirouette immortelle.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Julia Kristeva.
Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be, second verse,
When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try?
Catch.
Doris Day, dans L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, version américaine et en couleur, sortie en 56 de son film anglais de 34. Julia Kristeva, vous avez choisi deux films, l'un pour la délicatesse de l'image, l'autre pour la pathétique détresse maternelle. Alors c'est l'autre qu'on entend et vous dites, la dépression maternelle accompagne la séparation mère-enfant que j'entends sur le divan, la reconnaître comme le fait le chant de Doris Day est la meilleure façon de sauver la mère et l'enfant. Faut peut-être le remettre en contexte dans l'extrait qu'on entend. Voilà, l'enfant ne va pas tarder à être kidnappé.
Oui, il y a deux versions d'ailleurs de ce film. La version de 56, je crois que vous avez, et une autre de 65. Ce n'est pas un des grands films de Hitchcock. Moi, je préfère Psychose ou Les Oiseaux. Mais ici, j'ai choisi cela parce que, d'abord, de la part de l'intellectuel que je suis, on n'attend peut-être pas vraiment Doris Day comme expression profonde de la mélancolie. Mais je trouve que c'est une manière à la fois publique, basique et très émouvante de parler de la maternité. Nous sommes une civilisation, nous l'Europe sécularisée, qui a le mariage pour tous, qui fait des procréations artificielles, etc. Mais nous n'avons pas de discours sur la maternité. Qu'est-ce que c'est que d'être mère? Comment vivre à la fois cet attachement, ces tensions, ces violences aussi de la relation maternelle? Et la recherche en psychanalyse dont je parlais tout à l'heure se consacre beaucoup maintenant à la relation précoce mère-enfant, pour voir comment, à la fois du côté de la mère, mais aussi du côté de l'enfant, la séparation se vit très difficilement. Et le rôle de l'analyste, c'est de restaurer ce lien, à la fois de le rendre tendre, voluptueux, comblant, et en même temps de permettre à l'un à l'autre de supporter l'absence.
Même lorsque l'enfant a une mauvaise expérience avec la mère, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en faire le deuil, même quand c'est lié à des moments très douloureux?
Parce que l'enfant humain naît inachevé. On appelle ça la néothénie. Le petit chat ou le petit oiseau, ils sortent assez vite de l'empreinte maternelle et se développent facilement. Mais l'enfant a besoin d'être accompagné, d'apprendre le langage et d'apprendre la relation à autrui. Et cet apprentissage suppose d'abord une très bonne relation avec le contenant maternel et ensuite l'introduction d'un tiers à l'intérieur du système. Donc tout ça demande énormément de finesse. Et dans Doris Day, nous avons l'histoire assez compliquée de toujours des espionnages, des choses mystérieuses. L'enfant va être kidnappé et il reconnaît sa mère parce qu'il entend sa voix. Et cette espèce de résonance quasiment pré-linguistique à partir de la mélodie, à partir des timbres de la voix, et me semblait très important pour montrer combien l'être humain est en dépendance vis-à-vis de cette altérité qui renvoie au corps maternel, à la voix maternelle, et sur laquelle va se construire la langue dite maternelle. Donc nous sommes là dans une question qui est à l'ordre du jour, qui est la question de l'identité. Identité nationale, identité post-nationale, qu'est-ce que cela veut dire? Mais si on prend les choses à la racine, on voit combien cette relation à l'identité est délicate et fragile. Et que pour accompagner des personnes qui sont en difficulté avec leur identité, comme par exemple les adolescents que je croise à la maison des adolescents et qui sont tentés par le djihadisme, il faut revenir à la base de l'émergence de l'identité. Et c'est là que se niche la mélancolie, c'est-à-dire la détresse, si je me sens abandonnée, si je ne suis pas satisfait, dès ce moment-là. Puis il y a évidemment la relation au père, la relation au groupe, mais la racine profonde est cette solitude et qui renvoie à la rupture ou à la non-satisfaction de ce premier lien.
Justement, Julia Kristeva, dans le second film que vous avez choisi, on s'attache à une femme âgée très seule qui a été mise à l'écart puisqu'elle a la lèpre et que au Japon, jusqu'en 1996, il y avait une loi qui mettait les lépreux dans des endroits spécialement dédiés. Ce sont Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase, sorti en 2015. Alors, c'est un film où on pleure pendant la moitié.
Oui, moi j'ai choisi ce film d'abord pour insister sur mon côté voyageur, sur le fait que les civilisations qui émergent depuis quelque temps déjà dans la globalisation nous interpellent et comment on reste sensible ou pas à la différence dans leur approche de la détresse humaine. Et je ne vais pas souvent au cinéma parce que ma façon de traverser la mélancolie, c'est de m'immerger dans l'écriture, qui est un art, si je puis dire, en tout cas une expérience très solitaire, exigeante et qui demande beaucoup de concentration. Et du coup, le cinéma me paraît un art très lent et un peu bavard et un peu trop spectaculaire, donc j'y vais pas souvent.
Et divertissant ?
Divertissant parfois, parfois pesant et ennuyeux. Mais j'ai des amis cinéphiles qui m'ont amené à voir beaucoup de films japonais et donc je les remercie. Et du coup, j'ai découvert cette manière de frôler les larmes et la dépression de manière à la fois très profonde et très tactile, très fugace, très délicate. Je trouve ce film qui s'appelle Délices de Tokyo extrêmement intéressant parce que, comme vous venez de le dire, il s'agit en effet d'une lépreuse qui va faire une espèce de Madeleine de Proust
qui s'appelle
Dorayaki, je crois que ça s'appelle en japonais. Donc c'est quelque chose qui comble nos absences, nos manques, etc. C'est un remède à la mélancolie, la bonne pâtisserie. Mais en même temps, c'est une femme qui porte en elle deux aspects de la dimension humaine qui nous renvoient à la mélancolie, c'est-à-dire une maladie abjecte qui provoque du dégoût et qui renvoie à une autre dimension qui mobilise beaucoup, c'est le handicap. Le fait d'avoir une exclusion pour cause de manquement à la norme.
Vous êtes engagée d'ailleurs dans ce domaine.
J'ai accepté la proposition du président Chirac de présider pendant quelque temps le Conseil national handicap. Et puis, de manière plus profonde et plus universelle, la mortalité qui nous habite. Parce que cette femme, elle va mourir et les gens qui ont peur d'elle, ils ont peur, bien sûr, de la lèpre, mais ils ont peur de la mort en soi-même. Et donc, c'est cet aspect-là que je voulais qu'on mette sur le micro,
sur le divan,
pour que on comprenne de quoi on parle quand on parle de dépression.
Et d'ailleurs, dépression, deuil, on y revient à nouveau avec le remède suivant, Julia Kristeva, puisque vous avez choisi l'expérience psychanalytique et vous ajoutez « Freud découvre que la séparation, la perte, le manque peuvent être transférés sur l'analyste et ainsi seulement traversés ». Vous parlez souvent du concept de Freud d'objet ambivalent comme source de la mélancolie, c'est-à-dire un objet à la fois aimé ou haï, ça peut être la mère ou un autre objet. Et en fait, quand on l'aime, on a du mal à s'en séparer. Et comme on le hait, on se dévalorise soi-même parce qu'on s'identifie à cet objet. Finalement, on se hait soi-même. Est-ce que c'est possible de dépasser ça ?
Mais il y a quelque chose de fascinant dans la relation à cet objet perdu qui est l'objet maternel, le sein. Puisque je l'aime, le sein, je ne pouvais pas vivre sans ça. Je le mets en moi, je m'identifie et donc je me le garde. Il y a un côté cannibalique dans cette relation à cet objet qui m'est nécessaire. Et en même temps, puisque je dois le quitter, que il, le sein, ou elle, maman, me quitte, je la hais, elle me hait. Donc il y a la haine que j'essaye de protéger et avant de l'adresser à cet objet qui s'en va, je me l'adresse à moi-même parce que je l'avais déjà avalé. Donc on est là dans cette volupté de cannibalisme mélancolique qui s'aime et qui se hait et qui est très difficile à déverrouiller. Mais on comprend combien ça peut être pesant dans la vie. Et surtout quand il s'agit d'une fille et de sa mère, les règlements de compte peuvent être très longs.
J'opine du chef. Dans l'un de ses essais de psychanalyse appliquée, Freud explique que les œuvres d'art lui font forte impression tant qu'il arrive à saisir par où elles produisent leur effet. Si je ne le puis, par exemple pour la musique, je suis presque inapte à la jouissance, écrit-il. Julia Kristeva, examinons votre cas. Oh, Extrait de l'opéra Griselda de Vivaldi, le morceau Agitata da Due Venti, interprété par la mezzo-soprano Cecilia Bartoli, que vous évoquez, Julia Kristeva, dans votre autobiographie, dans vos entretiens autobiographiques Je me voyage, comme grande favorite de la maison. Vous l'écoutez souvent en famille. D'ailleurs, on trouve un texte de Monsieur Kristeva sur ce morceau.
Mais il va pas être content, monsieur Kristeva, si vous l'appelez comme ça. Mais tout à l'heure, on va lui rendre hommage d'une autre façon, si vous permettez. Ah non, moi, j'adore Cecilia Bartoli parce que, pour plusieurs raisons, mais sur le sujet qui nous intéresse, le thème de ce morceau de Vivaldi est un naufrage. Et donc, la personne qui se noie est en état de détresse. Or, ce qu'on entend, il n'est pas du tout en train de pleurer.
C'est la pulsion de vie, au contraire.
C'est la pulsion de vie, c'est de la colère, c'est la joie. Et en plus, avec ces vocalises qui sortent des mots, il ne s'agit même pas de désespoir ou de contentement ou de colère, etc. C'est quelque chose du pré-langage, d'animal, un oiseau qui s'envole. Enfin, c'est la chair humaine qui est devenue la chair du monde. Enfin, c'est magnifique. Et alors, Freud n'était pas très oreille absolue, loin de là. La musique l'intéressait peu. Mais il a compris que les êtres humains aiment la beauté parce que ça remplace l'éternité. Et ceux qui ne croient pas à l'éternité pensent à un autre défi, à la mort, à une autre persistance, survivance par le beau. Et là, dans cette emprise du beau jusqu'au pré-langage, jusqu'aux ces vibrations de la vitalité excessive mais envahissante, eh bien, c'est ça qu'il nous faut transmettre aujourd'hui, à un moment de dépression nationale qui prend la forme de colère diverse et variée.
En même temps, dans la colère, il y a quelque chose de justement du côté de la pulsion de vie, alors que la mélancolie peut être mortifère, paralysante.
Tout à fait. Et il y a dans la mélancolie, au sens strict du terme, que j'emploie dans mon livre Soleil Noir, on n'entend pas le côté spleen, délicatesse, etc. Pour la psychanalyse aujourd'hui et la psychiatrie, il y a la dépressivité que nous avons, vous et moi, parfois, la dépression, où on se soigne un peu, et la mélancolie, ce n'est pas du tout le côté romantique, charmant, poétique, etc. C'est la mélancolie asilaire, dans lequel cas, les neurones ne marchent plus, la personne est paralysée, et sa pensée ne marche pas, et jusqu'à l'extinction du désir de vivre qui se retourne en suicide.
Alors là, c'est difficile d'enchaîner après ça, mais retournons justement dans le mouvement et dans la pulsion de vie, Julia Kristeva, avec votre second antidote musical. C'est une chanson écrite par Irving Berlin en 1926 et reprise par Ella Fitzgerald en 1958. C'est Blue Skies, des ciels bleus, et vous dites du scat par-delà la dépression amoureuse. On retombe toujours sur nos pattes, hein, on passe de la dépression à la joie de vivre.
Mais c'est très féminin, ça. Bon, on en parlera peut-être, mais écoutons-la, parce que je sais pas pourquoi on la passe pas plus souvent.
C'est vrai.
Je trouve que ça fait du bien en ces temps de détresse.
Et la mélancolie, vous dites d'ailleurs que c'est très répandu chez les femmes, Julia Kristeva.
Mais c'est ce qu'on croit. Par exemple, il y a un auteur sur lequel je me suis appesantie dans Le Soleil Noir, c'est Duras. Et dans Le Vice-Consul, on lui demande au vice-consul par quoi on prend une femme. Il dit par la tristesse. Donc les femmes sont supposées être tristes. Eh bien, mon expérience n'est pas ça. Elles savent être tristes, mais elles savent très bien s'en débarrasser. Pas dénier la tristesse, mais en faire autre chose, un combat, un art de vivre. Et les exemples que j'ai donnés, à part Freud et Proust, c'est Ella Fitzgerald, c'est Colette, Doris Day, etc. Donc écoutons Ella Fitzgerald, oui.
Ella Fitzgerald, Blue Skies.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing nothing but blue skies from now on.
Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de Julia Kristeva et de Marcel Proust. Julia Kristeva, vous avez choisi un extrait du Temps retrouvé, septième et dernier tome de la recherche, publié à titre posthume en 1927. Avant de l'entendre, je rappelle pour les auditeurs que vous avez consacré à l'écrivain un ouvrage de référence, Le Temps sensible, Proust et l'expérience littéraire. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez nous lire le très bel extrait que vous avez choisi pour l'émission ?
Oui, c'est une phrase que les connaisseurs de Proust connaissent ou dont ils se souviennent, qui est un peu longue, mais je pense très subtile. Je vais essayer de la lire. Les idées sont des succès d'années des chagrins. Au moment où ceux-ci se changent en idées, ils perdent une partie de leur action nocive sur notre cœur. Et en même temps, au premier instant, la transformation elle-même dégage subitement de la joie. Succès d'années, dans l'ordre du temps seulement d'ailleurs, car il semble que l'élément premier, ce soit l'idée, et le chagrin, seulement le mode selon lequel certaines idées entrent d'abord en nous. Mais il y a plusieurs familles dans le groupe des idées. Certaines sont tout de suite des joies.
Là, on peut se réjouir puisqu'on entend bien l'idée de la sublimation du chagrin par le travail de la pensée.
Tout à fait. Mais vous savez, l'idée dont je vous parlais tout à l'heure, selon laquelle les psychanalystes voient d'abord l'enfant capable d'être triste et seulement après de parler, c'est une idée de Melanie Klein. C'est écrit à peu près à la même époque où Proust écrivait que les idées sont des succès d'années des chagrins. C'est magnifique que deux génies dans des dimensions culturelles très différentes et sans se connaître arrivent à la même conclusion. C'est-à-dire que quand vous vous séparez de l'être aimé, en l'occurrence maman, mais ça arrive tous les jours avec des êtres qui nous aiment ou qui nous ont aimés, vous êtes en état de détresse, de solitude et vous ne savez pas trop bien. Pourquoi ? C'est l'émotion, une représentation psychique sans mots, très archaïque, quelque chose de presque animal qui s'imprime en vous.
Comme une partie de soi qui manquerait.
Une partie de quelque chose qui n'est pas encore soi, qui est flou. Le soi se construit après.
le soi se construit à partir du moment où vous enregistrez, vous prenez conscience de ce chagrin, de cet état de détresse, de cette solitude, de cette anxiété, et vous lui trouvez le mot. Vous dites « Maman, viens, comment ça va, aide-moi », il y a tous ces mots qui viennent après. Donc la capacité de parler et de penser se construit à partir du sentiment de détresse. Donc c'est l'envers et l'endroit. La doublure de la pensée et du langage, c'est cette tristesse. Donc on voit combien c'est nécessaire qu'elles aillent ensemble s'il y a créativité. Et l'artiste est constamment à la charnière entre les deux. Il y a quelqu'un qui est un auteur beaucoup moins valorisé que Proust, qui est Céline, et dont moi-même j'ai fait de l'analyse dessus. Et en même temps les critiques en raison de son antisémitisme. Mais il dit en fait que le but peut-être de la vie, c'est de trouver le maximum de chagrin pour construire le soi-même avant de mourir. Donc l'idée française, telle que je l'ai recueillie moi dans ma traversée de la littérature et de la pensée française, c'est que la mélancolie peut être traversée pour se construire soi-même. On ne peut pas se construire sans cette traversée, vous dites le soi. Mais il vient en se construisant dans la traversée de la mélancolie avant de mourir. C'est une construction avec et par-delà la mélancolie.
Je m'appelle Claude Siméon Passement, ingénieur du roi, né à Paris en 1702... Je mourrai d'une brusque maladie dite soporeuse à 67 ans, en l'an 1769, 20 ans avant la Révolution française. Je le sais puisque le temps est ma spécialité. Je le calcule, je le vis, je peux l'arrêter à la seconde, à la tierce près. Je retiens tout. Chiffres, paroles, couleurs, sons, mélodies, rythmes. Ma mémoire est infaillible, mes pensées courent au galop comme les chevaux du roi chassant à Choisy.
Laure Grand-Besançon lit un extrait de votre roman « L'horloge enchantée » Julia Kristeva pour introduire l'œuvre suivante, « L'horloge astronomique » de Claude Siméon Passement, aussi appelé « Pendule astronomique » de Louis XV qu'on peut voir au château de Versailles. Claude Siméon Passement, c'est un ingénieur et horloger sur lequel vous avez enquêté pour votre roman. Il met 20 ans à concevoir le mécanisme de la pendule. Ensuite, il y a l'horloger Louis Dautio qui met 12 ans à la construire, puis les bronziers Caffieri, père et fils qui passent 4 ans dessus. Et je vous laisse nous la décrire, Julia Kristeva, et surtout nous sa particularité.
Merci d'avoir pris ce dernier élément de mes stations à travers la mélancolie, parce que c'est un objet que j'adore et ça me permet de dire combien j'ai été attirée par lui, parce que je me suis rendu compte à mon grand âge désormais que le grand personnage de ma traversée de la mélancolie, c'est le temps. Et parler du temps abstraitement ne me satisfaisait pas. Après avoir été linguiste, sémiologue, je suis devenue psychanalyste pour être dans le concret du temps, tel que l'éprouvent mes analysants. Et aussi en essayant d'écrire, c'est-à-dire de laisser libre cours à mon imaginaire. Et dans ce livre qui s'appelle « L'horloge enchantée », qui est un roman, j'essayais de rendre compte de mon désir de France et de m'arrêter sur ce pays qui, en ce qui concerne cet objet qui se trouve dans les cabinets de Louis XV à Versailles, à la veille de la Révolution, quelques dizaines d'années avant la Révolution, imaginait donner l'heure universelle en construisant une pendule que j'invite nos auditeurs à aller voir à Versailles, qui donne le temps universel jusqu'à, vous savez quelle, vous n'avez pas encore dit, jusqu'à quelle année.
Elle s'arrêtera à l'aube de l'an 10 000.
Voilà, jusqu'à 9 999. Et on avait peur qu'au moment du passage à l'an 2000, ça allait s'arrêter, mais pas du tout. C'est une manivelle qu'il faut faire fonctionner. C'est tout à fait mécanique, ça n'a rien d'électronique et ça marche toujours. Et c'est formidable. Donc j'ai essayé de faire une enquête dans les archives de Versailles. Ils ont tout sur le mécanisme. Ça représente un androïde avec la tête qui est le soleil. ou plutôt le système solaire, toutes les planètes qui tournent autour, et Passement, qui est l'auteur de cette œuvre, a calculé les éclipses de toutes les planètes. Ça c'est la tête. Le cœur, c'est l'horloge elle-même. Et les jambes, c'est un meuble Louis XV avec, et vous permettrez à la psychanalyse de parler un peu de sexe.
Je vous en prie.
C'est le pendule qui est une espèce de phallus géant et qui est assez drôle et obscène, mais qui donne l'esprit de cette époque. Mais je ne trouvais rien sur le personnage. Et donc, j'ai fait des enquêtes dans diverses bibliothèques. C'est un homme assez mélancolique, Claude Simon Passement, qui a trouvé cette idée, non pas d'arrêter le temps, mais de faire que les gens, ceux qui le regardent, les courtisans, mais aussi le peuple dont il sortait, parce que c'était un artisan, puissent se projeter dans l'infini du temps. Et donc, à travers la beauté. Et cette obsession nous empoigne encore, parce que vous savez que, ça ce n'est pas dans mon livre, mais le grand propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, a inventé une horloge qui va durer jusqu'à 10 000, l'an 10 000, justement, et qui se trouve, on est en train de la construire dans les montagnes de Texas, et c'est quelque chose qui représente pour le nouveau monde le fantasme, en fait, de Claude Simon Passement. J'ai envoyé à Monsieur Bezos mon livre, mais j'espère qu'il en tiendra compte.
Eh bien, nous lui passons le message. Répondez, répondez. Julia Kristeva, dans un instant, nous serons rejointes par Psyché, et ce n'est pas anodin en présence d'une psychanalyste. Écoutons d'abord un titre de la programmation France Inter, le groupe londonien Aluna George, accompagné de l'américain Cautious Clay, Superior Emotion. Battle with my instincts. Evolution giving me the skills that I don't need. And these pills that I think I need.
Sur France Inter avec Julia Kristeva.
Thank you.
Narcisse Poulenc, les animaux modèles balaient en un acte d'après les fables de La Fontaine. On entend les deux coqs, un air guerrier et quelque peu anxiogène puisqu'il est question d'une bataille entre ces deux volatiles pour une poule, du ressentiment et du drame qui guette le vainqueur lorsqu'il est insolent. Julia Kristeva, vous avez choisi une citation d'un autre récit poétique de La Fontaine, Les amours de Psyché et de Cupidon, un texte qui date de 1669. J'aimerais bien que vous nous lisiez cet extrait et que vous nous racontiez une anecdote. Je crois que vous avez un souvenir singulier lié à ces vers quand vous étiez monitrice d'enfants français au bord de la mer Noire.
Mais écoutez, je suis ravie encore une fois de reprendre mes amours de la culture française, parce que j'ai toujours eu l'impression, peut-être vous l'ai-je dit désormais, que en France, la mélancolie est quelque chose dans lequel on se complaît pas, même s'il y a Pascal, il y a aussi Rousseau, Nerval, etc. Le soleil noir de la mélancolie,
c'est
Nerval, voilà. Mais ce sont des exceptions. Et pour ce qui est de La Fontaine, évidemment, c'est les fables, Corbeau et le Renard, tout ce que vous connaissez, mais chez La Fontaine, on trouve une réflexion justement poétique, très condensée, que j'ai appris justement à ces jeunes qui venaient, parce que c'était le communisme qui avait aussi de bons côtés, l'internationalisme, la place des femmes, etc. Donc on pouvait accompagner le monde qui vient. Alors je le connais par cœur et je l'ai appris, nous l'avons appris avec Philippe Solers, c'est notre fils. J'aime le jeu. L'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique.
C'est une définition parfaite de l'amor fati prônée par les stoïciens ou Nietzsche.
Oui, mais c'est beaucoup plus joyeux, parce que sombre plaisir d'un cœur mélancolique, il le dit avec emphase et volupté, mais c'est le souverain bien. Et ce qu'il veut, c'est le souverain bien, le jeu, les livres, la musique, la ville, la campagne. C'est cet art de vivre à la française, cette gourmandise de la vie qui est pas en arrière-plan, mais avant. C'est ça qui capte dans le texte, beaucoup plus que la chute, qui évidemment, là, on sera mortels tous. Mais en attendant, aller vers le souverain bien, c'est ça l'incitation.
Et surtout, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de souverain bien, que tout est sujet à plaisir.
Voilà, il n'y a pas qu'un souverain bien. Cette pluralité, cette polyphonie des sens et ces langages multiples. Donc, La Fontaine lui-même est un exemple, parce qu'il n'écrit pas que des fables. Il y a plusieurs langages.
Non, c'est un très long poème, d'ailleurs. Les amours de Psyché et de Cupidon. Julia Kristeva, nous avons abordé la psyché, nous n'avons pas encore parlé du corps, mais votre dernier onguent de l'âme y remédie. Vous avez choisi l'île de Ré, que vous qualifiez d'exilée et d'accessible, et vous aimez là-bas nager au lever et au coucher du soleil. Alors, est-ce que vous nagez seule, Julia Kristeva? Et surtout, avez-vous toujours ce sentiment ambivalent ressenti à 5 ans devant la mer? Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Oui, je me souviens, oui, parce que j'entrais dans l'eau de la mer Noire et quand la mer se retirait, j'avais l'impression qu'elle allait m'emporter, mais il y avait papa qui me tenait la main et donc j'étais sécurisée. Mais maintenant, vous savez, j'ai tellement intériorisé le soutien paternel que je suis sûre, si un homme ne m'aime pas, qu'il se trompe. Donc, contre la mélancolie, il y a cette espèce d'intégration de l'amour paternel que le freudien appelle l'incorporation qui peut nous sauver contre toute forme de trahison. Et donc, à l'île de Ré, c'est drôle de prendre racine en France dans une île. C'est un ensouchement un peu paradoxal parce que je suis à la fois dans une terre qui est entourée d'eau, c'est une solitude, mais je suis accessible parce qu'en plus, maintenant, il y a le pont. Donc, c'est tout à fait moi.
Vous vouliez tout à l'heure rendre hommage à votre époux Philippe Solers, que j'ai appelé Monsieur Kristeva. J'espère qu'il ne me détestera point. Julia Kristeva, je vous en prie, il nous reste exactement 2 minutes à peu près et vous avez un texte que vous vouliez nous lire.
Mais je voulais lire un passage de Centre pour d'abord rendre hommage, évidemment, comme vous le dites, pourquoi pas, mais surtout parce que je vais plaider la cause de la psychanalyse, qui a du mal à se faire entendre, parce que nous sommes toujours un peu compliqués, les psychanalystes. Or, elle est au centre de ce livre. Et voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qui s'est voulu à travers la psychanalyse? Avant tout, le démasquage de l'hystérie, c'est-à-dire de la nature humaine la plus profonde. On pourrait en tirer un roman génial invendable. Voyage au bout de l'ennui. Le plus étonnant est que Nora, la psychanalyste qui me représente, dit-elle, ne s'ennuie jamais. Chaque cas l'intéresse. L'aveuglement humain la passionne. La bêtise elle-même la ravit. Bref, elle aime les gens et me reproche souvent de ne pas les aimer. C'est vrai, je vais trop vite. Je vois à travers eux la façon dont ils sont prisonniers de leur corps. Ils n'en sortiront pas, ni par l'art, ni par le sport. On dirait, sauf exception, qu'ils sont naufragés de naissance. Nora n'est pas d'accord. Selon elle, il y a toujours un espoir, un peu de vérité, peut-être.
Vous êtes, Julia Kristeva, plus optimiste que Philippe Solers.
Moi, je suis même pas optimiste, mais je suis une pessimiste énergique qui nage à travers la mélancolie.
Et c'est ça le secret, finalement?
Peut-être, peut-être. Je crois, pour parler de l'île de Ré, on a pensé déjà à notre tombe et j'aimerais mettre une phrase de Colette, « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ».
Que je citais dans l'introduction. Oui. Cette phrase, vous l'avez toujours ressentie, Julia Kristeva, ou parfois vous avez ressenti aussi le fait qu'il fallait s'y exercer?
Je pense que je n'ai jamais pu le formuler comme ça, parce que c'est hyperbolique et un peu insolent. C'est Colette qui pouvait le faire. Elle parle extrêmement français, comme disent les personnages de Saint-Simon, Madame de Montespan, je crois. Mais c'est entré en résonance avec mon expérience. Le communisme, l'exil, la difficulté de la maternité, difficulté d'être française sans être française. Toutes ces choses-là qui me mettent, je crois, à l'unisson avec les vibrations d'une modernité un peu en épreuve, en difficulté, en crise, eh bien, elle le formule comme ça. Et je crois que c'est pas tellement mien, ce résumé, c'est féminin. Les femmes sont amenées à dépasser les souffrances et la mortalité et à renaître.
Merci, on va finir sur ça, Julia Kristeva, c'est très beau. Merci beaucoup d'être venue dans cette émission.
Merci à vous.
Je renvoie les auditeurs vers votre foisonnante bibliographie et notamment pour des raisons purement subjectives vers votre essai « Soleil noir, dépression et mélancolie » où l'on croise Marguerite Duras, Gérard de Nerval et Dostoïevski que je salue au passage et sur lequel vous travaillez je crois en ce moment. Je rappelle le titre de votre dernier roman, c'est « L'horloge enchantée » paru chez Fayard et votre livre d'entretien autobiographique chez le même éditeur « Je me voyage, mémoire, entretien » avec Samuel Doc. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur papier dans votre lit puisque la nouvelle édition du livre tiré de l'émission vient de paraître chez Autrement. La programmation musicale d'aujourd'hui et les remèdes de notre invité sont sur le site de l'émission. J'espère que votre âme est aussi revigorée que celle d'un fantôme prenant congé après avoir été discerné. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie du secrétaire d'État Mounir Majoubi.